Chapitre 12. Deux jours plus tard, Fred, installé devant Moniteur 3, regardait d'un œil intrigué son sujet Robert Arctor prendre un livre au hasard dans la bibliothèque de son living. Une planque, Fred se rapprocha au zoom. Un numéro de téléphone ou une adresse notée à l'intérieur, Arctor n'avait pas pris ce bouquin pour le lire, ça se voyait. Il venait d'entrer dans la maison et portait encore son manteau. Mais il avait un drôle d'air, concentré et déprimé à la fois, comme une sorte de fébrilité émoussée. Le zoom cadrait une photo en couleur, pleine page, montrant un homme en train de sucer le sein droit d'une femme. Le couple était nu, la femme visiblement en train de jouir. Elle fermait les yeux à demi et sa bouche s'ouvrait sur une plainte muette. Peut-être qu'Arctor se sert de ça pour prendre son pied. Mais non, il ne prêtait aucune attention à la photo. Au lieu de cela, il débitait d'une voix grinçante un baratin abscon et mêlé d'allemand, manifestement destiné à dérouter ceux qui pourraient être à l'écoute. Pensait-il que ses collègues se tairaient quelque part à l'intérieur de la maison? Voulait-il les obliger à se montrer? Mais personne ne fit son apparition. Fred, qui avait déjà visionné un bon bout de pellicule, savait que Luckman se trouvait dans sa chambre, étendu raide et tout habillé à deux pas de son lit, suite à l'absorption d'un mélange de barbitos et de substances M. Barry s'était sorti. « Que fait donc Arctor ?» se demanda Fred, en notant le numéro de code de ses séquences. « Il devient de plus en plus bizarre. Je commence à comprendre la balance qu'il l'a donnée. » Et si toutes ces phrases qu'il récite constituaient une commande vocale destinée à tout un matériel électronique qu'il aurait mis en place? Marche arrêt? Peut-être est-il en train de créer une zone de brouillage pour se protéger du balayage holo. Non, il y a peu de chance. Ça n'aurait guère de sens ni d'utilité, sinon pour Arctor. Ce type est dingue, vraiment flippé. Depuis le jour où il a retrouvé son céphascope saboté, en tout cas depuis le jour où il est revenu avec sa voiture bousillée, et bousillée de telle manière qu'il avait bien failli y rester. D'ailleurs, dans une certaine mesure, il était déjà frappé auparavant, dès le fameux « jour de merde de chien », comme il l'appelait. À vrai dire, Fred ne le lui reprochait pas. « Il y a de quoi faire flipper n'importe qui », songea-t-il, en regardant Arctor ôter sa pelure avec lassitude. Seulement, la plupart des gens se remettraient en phase. Lui, pas. Il empire. Il se met à réciter, tout seul, des messages imaginaires en langue étrangère. À moins qu'il ne soit en train de me bluffer. Cette pensée mit Fred mal à l'aise. Il a découvert je ne sais comment qu'il est sur écoute permanente et il couvre ses véritables activités. À moins qu'il ne veuille simplement jouer au plus malin. L'avenir nous le dira. Moi, je dis qu'il nous fait marcher. Il y a des gens qui savent quand on les observe. Ils ont un sixième sens. Ce n'est pas de la paranoïa, mais plutôt un instinct primitif. Celui de la souris, du gibier, de toute chose qui se sait traquer. Qui le sent. Il fait l'andouille pour notre profit. Il nous mène en bateau. Mais sait-on jamais, un bluff peut en cacher un autre. C'est une blague à tiroir. La récitation obscure d'Arctor venait de tirer Luckman de son coma, à en juger d'après la caméra qui surveillait sa chambre. Luckman se redressa, toujours sonné, et tendit l'oreille. Arctor fit encore du bruit en laissant tomber un cintre tandis qu'il rangeait son manteau. Luckman replia sous lui ses longues jambes musclées et d'un geste vif s'empara du coup de poing qu'il gardait toujours sur sa table de chevet. Il se leva complètement et se dirigea d'un pas souple vers la porte de sa chambre. Dans le living, Arctor ramassa le courrier posé en vrac sur la table basse et se mit à l'examiner. Il lança un tas d'imprimés vers la corbeille à papier, rata son coup. Luckman l'entendit. Il se raidit et dressa la tête, comme pour sentir le vent. Arctor interrompit sa lecture du courrier, fronça les sourcils, s'exclama « Ça, par exemple !» Luckman se détendit, lâcha son coup de poing qui tomba avec un bruit métallique, lissa ses cheveux, ouvrit la porte et gagna le living.
« Salut, quoi de neuf ?»«
Aujourd'hui, je suis passé en voiture devant l'immeuble de la société de micro-informatique Mailar. »
« Tu déconnes ?»
Il faisait un inventaire. Seulement, un des employés avait dû prolonger l'inventaire au dehors en emportant une puce à la semelle de ses souliers. Alors tout le personnel était à quatre pattes dans le parking de la société, armé de pinces à épiler, d'un tas de loupes minuscules et d'un petit sac en papier.
« Il promettait une récompense ?» demanda Luckman en bâillant et en se frappant la panse.
« Oui, ils en offraient une, mais ils l'ont perdue aussi. C'était un sou microscopique. »
« T'en vois beaucoup des trucs comme ça quand tu te balades en voiture ?»«
Seulement à Orange County. »
« Il est grand comment, l'immeuble de la société Maillard ?»«
Il fait dans les 2,5 cm de haut. »
« À combien évaluerais-tu son poids ?»«
En comptant le personnel ?» Fred actionna l'avance rapide. Au bout d'une heure, selon le cadran, il repassa à la lecture normale.
« Dans les 5 kilos, » disait Arctor. « Alors comment peux-tu te rendre compte en passant s'il ne mesure que 2 cm et ne pèse que 5 kilos ?»«
Ils ont une grosse enseigne. »
D'où Jésus, soupira Fred, qui relança la bande en accéléré, mais l'arrêta soudain alors que 10 minutes seulement s'étaient écoulées en temps réel. Une intuition.
« À quoi ressemble leur enseigne ?» demandait Luckman, maintenant assis par terre et occupé à nettoyer une pleine boîte d'herbe. « Elle est au néon, en couleur et tout le tremblement. Elle se voit. Je me demande si je suis passé devant.
Attends, je vais te montrer. »
Arctor fouilla dans sa poche de chemise.
« Je l'ai rapporté avec moi. »
Enroulement accéléré. Luckman.
« Sais-tu comment tu pourrais importer des micro-puces en contrebande dans un pays sans que personne s'en rende compte ?»«
Pratiquement de la manière qui te plaira ?»
Arctor tirait sur un joint et l'air était enfumé.
« Non, je veux dire, d'une manière que personne n'irait jamais soupçonner. C'est Barris qui m'en a parlé l'autre jour. Je ne devais le répéter à personne parce qu'il va mettre ça dans son livre. »
« Quel livre ? Dope et jardin ou ?»«
Non, la contrebande sans peine ou comment introduire clandestinement des objets aux États-Unis et les faire sortir d'eux-mêmes, selon le sens du voyage. Tu les glisses dans un chargement de dope, disons de l'héroïne. Les micro-puces sont dans tes sachets, personne n'ira les remarquer. Elles sont tellement petites, ils ne... »
Ouais, après ça, un junkie s'amène et se fait un shoot mi-poudre, micro-puce.
Eh ben, dans ce cas, ce sera le junkie le plus instruit qu'on ait jamais vu.
Ça dépendrait de ce qu'il y aurait sur les micro-puces.
Barris avait encore une autre combine pour passer de la dope. Tu sais, quand les douaniers te demandent si tu as quelque chose à déclarer, tu ne peux pas vraiment leur dire « bah, j'ai de la dope parce que... »
Ça va, abrège.
Voici. Tu prends un énorme bloc de hache et tu le sculptes de manière à lui donner figure humaine. Ensuite, tu creuses une section et tu y adaptes un petit moteur, une sorte de mécanisme d'horlogerie, ainsi qu'une mini-cassette. Puis tu places le mannequin devant toi dans la file et au moment de passer devant le douanier, tu tournes la clé dans son dos. Quand l'autre lui demande s'il a quelque chose à déclarer, le bloc de hache répond « Moi, rien du tout » et suit son chemin, jusqu'à ce qu'il se trouve de l'autre côté de la frontière.
On pourrait utiliser une sorte de batterie solaire au lieu d'un ressort. Comme ça, il pourrait marcher pendant des années. Il ne s'arrêterait jamais.
À quoi bon ? Il finirait par atteindre l'Atlantique ou le Pacifique. En fait, il irait jusqu'au bout de la planète et continuerait comme...
Représente-toi un village esquimau avec ce bloc de hache haut de 2 mètres et valant... Combien ça vaudrait, à ton avis ?
$1 milliard.
Plus que ça. 2 milliards.
Ces esquimaux sont là en train de tailler des lances d'os quand soudain ils voient débouler ce bloc de hache valant 2 millions de dollars qui piétine dans la neige en répétant « Moi, rien du tout ».
Ils se demanderaient ce que le mec entend par là ?
Ça, il n'en reviendrait pas. Des légendes se créeraient.
Tu t'imagines en train de raconter à tes petits-enfants « J'ai vu de mes yeux ce bloc de hache haut de 2 mètres surgir du brouillard et partir dans cette direction. Il valait bien 2 milliards en répétant « Moi, rien du tout ». Tes enfants te feraient interner.
Pas du tout. Les légendes, ça se développe. Au bout de quelques siècles, voici ce qu'ils raconteraient. Au temps de nos grands-pères est venu un bloc d'Afghans premier choix, haut de 30 mètres et crachant le feu. Il hurlait « Meurs, chien d'Esquimaux !» Mais nous nous sommes battus, armés de nos seules lances, et nous avons fini par le tuer.
Les gosses n'y croiraient pas davantage.
De nos jours, les gosses ne croient plus à rien.
C'est la déprime de raconter quelque chose à un jeune. Une fois, il y en a un qui m'a demandé « C'était comment les premières automobiles ?» « Merde, je suis né en 1962. »
Figure-toi qu'un jour, un mec complètement cramé à l'acide m'a posé la même question. 27 ans, il avait, et moi, seulement 3 ans de plus que lui. Le mec savait plus reconnaître quoi que ce soit. Plus tard, il a encore pris de l'acide. Enfin, ce qu'on lui avait vendu comme. Et il s'est mis à pisser par terre. Il a chié par terre. Et quand tu lui demandais quelque chose du genre « Comment ça va, Don ?» Il répétait après toi comme un perroquet « Comment ça va, Don ?» C'est tout ce qu'il parvenait à sortir.
Il y eut un silence, tandis que les deux tiraient sur leurs joints dans la pièce enfumée. Un silence long, sombre. Puis,
« Tu sais une chose, Bob ? Il y a eu un temps où j'avais le même âge que tout le monde.
Moi aussi, je crois.
Je sais pas comment on en est là, tous.
Mais si, Luckman, tu le sais. Tu sais bien comment.
Bon, eh bien, n'en parlons pas. »
Il continua d'inhaler bruyamment. Son visage plombé se découpait dans la pénombre de midi. L'un des téléphones de l'appartement se mit à sonner. Un complet brouillé décrocha, puis tendit le combiné à Fred.
« C'est pour toi !»
Il coupa les holos et prit la communication.
« Vous vous souvenez de la séance de la semaine dernière ?»
fit une voix.
« Quand on vous a administré le test BG. »
« Oui, répondit Fred, au bout d'un moment.
« Vous étiez censé revenir. »
Nouveau silence.
« Nous avons traité des données plus récentes vous concernant. J'ai pris sur moi de vous programmer une séance complète de tests de perception, plus quelques autres. Ça aura lieu demain, 3h de l'après-midi, même pièce. Ça vous prendra dans les 4h en tout. Vous vous rappelez le numéro de la pièce ?»«
Non. »
Comment vous sentez-vous ?
Ça va, dit Fred, stoïque.
Des problèmes ? Dans le boulot ou en dehors ?
Je me suis engueulé avec ma nana.
Pas de confusion ? De la difficulté à reconnaître les personnes ou les objets ? Quelque chose qui vous paraîtrait renversé ou dédoublé par inversion ? Et pendant qu'on y est, pas d'anomalie de la perception spatio-temporelle ? Pas de carence aphasique ?
Non, laissa-t-il tomber d'une voix lugubre. Rien de tout ça.
Bon. Rendez-vous demain à la pièce 203.
Quelles sont les données qui vous ont...
Nous verrons ça demain. Soyez-y, d'accord ? Et Fred, ne vous découragez pas.
Clic. Et clic pour toi, songea-t-il en raccrochant. Il râlait. Il sentait qu'on lui tendait le bras pour l'obliger à faire une chose qu'il ne voulait pas faire. Brutalement, il relança les holos. Les cubes s'illuminèrent, les couleurs reparurent, et les personnages s'animèrent. La bande-son se remit à débiter un bavardage inutile et, pour les oreilles de Fred, frustrant.
« Cette nana était en cloque, » racontait Luckman d'un ton monocorde. « Et elle a demandé un avortement. Elle avait 4 mois de retard et elle enflait à vue d'œil. Elle n'arrêtait pas de râler au sujet du prix de l'avortement. Pour je ne sais plus quelle raison, elle ne pouvait pas bénéficier de la sécu. » Un jour que j'étais chez elle, une de ses copines s'amène et se met à lui expliquer qu'elle faisait une grossesse nerveuse. « Tu veux croire que tu es enceinte ?» elle lui dit. « Complexe de culpabilité. L'opération, le paquet que ça va te coûter, c'est la punition que tu t'infliges. » Alors la nana, je l'aimais bien celle-là, lève les yeux calmement et lui dit « Bon, eh bien, si c'est une grossesse nerveuse, je me ferai faire un avortement nerveux et je paierai en billets nerveux. »
« Je me demande quel portrait il y a sur un billet nerveux, » dit Arctor.
« Simple. Qu'est-ce qu'on a eu comme président nerveux ?»«
Bill Foulkes. Lui se croyait président. »«
Et quand croyait-il avoir été en fonction ?»«
Il s'imaginait avoir rempli 2 mandats vers 1882. Après un traitement intensif, il a réduit ses ambitions à 1 mandat. » Furieux, Fred gifla les commandes et pousse à la bande de 2h30. Il y en a pour combien de cette merde ? Toute la journée ? Toute l'éternité ?
Alors tu trimbales ton gosse chez le toubib, chez le psychiatre, et tu lui expliques comment il n'arrête pas de hurler, de piquer des colères.
Luckman, qui parlait toujours, s'était installé à la table basse devant une canette de bière et 2 boîtes d'herbe. Il procédait à l'examen de l'herbe.
Et les mensonges ? Le gamin n'arrête pas de mentir, il grossit tout, invente des histoires. Le psychiatre examine le gosse et conclut « Madame, votre enfant est un hystérique. Il souffre d'un grave désordre nerveux, mais j'en ignore la cause. Alors toi, la mère, tu ne résistes pas à l'envie de placer
C'est parce que je l'ai eu à la suite d'une grossesse nerveuse, docteur. »
Luqman et Arctor éclatèrent de rire. Barris leur fit écho. Il était rentré pendant les 2 heures écoulées et enroulait à nouveau le fil blanc autour de sa pipe à hache. Fred avança la bande d'une heure.
« Ce mec, » disait Luqman, maintenant occupé à remplir une boîte avec l'herbe triée,
« est venu raconter à la télé qu'il était un imposteur de renommée mondiale. À un moment ou un autre, c'est ce qu'il expliquait aux journalistes, il s'était fait passer pour un grand chirurgien de la faculté John Hopkins, pour un physicien, boursier fédéral de Harvard et spécialisé dans les particules étranges, pour un romancier finlandais couronné par le Nobel, pour un président de la République argentine destitué et marié à... »
« Il s'est tiré de tout ça ?» demanda Arctor. « Il n'a jamais été pris ?»
Le type n'avait tenu aucun de ses rôles. Il s'était seulement fait passer pour un imposteur de renommée mondiale. L'histoire apparut plus tard dans le LA Times. Le mec passait le balai à Disneyland, jusqu'au jour où il a lu l'autobiographie d'un imposteur célèbre, un vrai. Alors il s'est dit « Merde, je peux me faire passer pour tous ces types folklos et personne n'y verra que du feu. » Et puis il a encore réfléchi et s'est dit « Pourquoi se donner tout ce mal? Je me ferai passer pour un imposteur. » Il s'est fait un blé monstre avec ça, d'après le LA Times. Presque autant que le véritable imposteur. Et c'était vachement plus facile, selon lui.
De son coin, Barry s'intervint dans la conversation.
« Ça arrive qu'on croise des imposteurs dans la vie de tous les jours, mais ils ne posent pas aux physiciens nucléaires. »«
Oui, tu penses aux agents des stupes, » dit Luqman. « Je me demande combien on en connaît. À quoi ressemble-t-il »
« C'est comme si tu demandais à quoi ressemble un imposteur, » fit Arctor. « Une fois, j'ai parlé à un gros dealer qui venait de tomber avec 10 livres de hache en sa possession. Je lui ai demandé à qui ressemblait le type qui l'avait niqué. »«
Comment les appelle-t-il ? » ?
« Les agents qui se font passer pour un copain d'un copain et te persuadent de leur vendre un stock. »«
Il avait la même gueule que nous, » dit Barris, en enroulant son fil.
« En même plus vrai que nature. Ce dealer, je l'ai vu après le jugement. » Il partait au trou le lendemain. Il m'a dit « Ces types ont les cheveux plus longs que nous. » Moralité, méfiez-vous des types qui vous ressemblent.
« Les stupes ont des agents féminins, » dit Barris.
« J'aimerais rencontrer quelqu'un des stupes, » fit Arctor, « en le sachant, dans une situation où je saurais à quoi m'en tenir. »«
Quand le mec te passera les menottes, » lança Barris, « là, tu sauras à quoi t'en tenir. »
« Non, ce que je veux dire, c'est « Les stupes ont-ils des amis ?» Ont-ils une vie sociale ? Et laquelle ? Leurs femmes sont-elles au courant ?
Ils n'ont pas de femmes, commenta Luqman. Ils vivent dans des sous-sols et jettent un coup de périscope entre les roues des bagnoles garées au moment où tu passes sur le trottoir. Comme des trolls.
Qu'est-ce qu'ils mangent ?
Des gens, dit Barris.
Comment un type peut-il faire ça ? Songea Arctor. Se faire passer pour un stup.
Quoi ?
S'exclamèrent en même temps Barris et Luqman.
« Merde, je suis raide défoncé, » fit Arctor avec un sourire forcé. « Se faire passer pour un stup, waouh !»
Il secoua la tête en grimaçant.
Les deux autres le dévisageaient. « Se faire passer pour un stup ? Se faire passer pour un stup ? Ma tête est mélangée aujourd'hui. Je ferais mieux d'aller me pioter. »
Fred arrêta sur image. Les cubes se figèrent. Et le son mourut.
On fait la pause, Fred ? L'interpella un débrouillé.
Ouais, je suis crevé. Cette merde vous monte à la tête au bout d'un moment.
Il se leva et prit une cigarette. Je comprends pas la moitié de ce qu'il raconte. J'en ai marre. Marre de les écouter.
Quand on se trouve sur place avec eux, ça passe un peu mieux. Tu sais ça ? C'était ton cas, j'imagine. Tu as travaillé chez eux sous couverture jusqu'à présent, pas vrai ?
Je n'irai jamais me mêler à une pareille bande de tarés, toujours à rabâcher les mêmes trucs comme de vieux ringards. Pourquoi reste-t-il comme ça à dégoiser sans fin ?
Pourquoi fait-on ce qu'on fait ? C'est un boulot plutôt monotone quand on y réfléchit.
Mais c'est notre boulot, on n'a pas le choix.
Comme les autres ringards, on n'a pas le choix.
Se faire passer pour un stup, songea Fred, ça veut dire quoi ? Personne ne sait. Se faire passer pour un imposteur. Un type qui vit sous les voitures en stationnement et bouffe de la merde. Pas un chirurgien mondialement connu. Ou un romancier ou un politicien. Personne qu'on voudrait voir à la télé. pas une vie que tout mec sensé. Je ressemble à ce ver qui rampe dans la poussière, vit dans la poussière et mange de la poussière, attendant que l'écrase le pied du voyageur. Ouais, ça dit bien ce que ça veut dire. Luckman a dû me lire ce poème ou l'ai-je appris à l'école? Marrant, les trucs qui peuvent vous revenir à l'esprit. Les paroles bizarres d'Arctor résonnaient encore dans sa tête, bien qu'il eût arrêté la bande. « J'aimerais pouvoir oublier ça, songea-t-il. J'aimerais pouvoir l'oublier, lui. » « J'ai le sentiment, déclara Fred, que parfois je sais ce qu'ils vont dire avant même qu'ils ouvrent la bouche, au mot près. »
« On appelle ça du déjà-vu, » répondit l'un des complets brouillés. « Laisse-moi te donner quelques tuyaux. Accélère le déroulement et saute des passages plus longs. Pas une heure, mais six. Ensuite, s'il n'y a rien, repasse la bande à l'envers jusqu'à ce que tu repères quelque chose. À l'envers, pas à l'endroit. Comme ça, tu n'es pas pris dans leur débit. 6 ou 7 heures en avant, puis tu reviens. Tu auras vite fait de prendre le coup. Tu sauras dire quand tu as des kilomètres de trucs sans intérêt et à quel moment tu tombes sur quelque chose de sérieux. Et tu n'écouteras pas vraiment, ajouta un autre gribouillis, tant que rien de valable ne se présentera. C'est comme une mère que rien ne peut réveiller, pas même un camion qui passe sous ses fenêtres, jusqu'au moment où son bébé se met à pleurer. Là, elle réagit. Peu importe si ça fait pas beaucoup de bruit, l'inconscient devient sélectif en apprenant ce qu'il doit guetter. Je sais, j'ai 2 gosses.
Des garçons ?
Non, 2 petites filles.
Ça c'est chouette, moi j'en ai une, elle a 1 an.
Pas de nom s'il vous plaît, fit l'autre complet brouillé. Et ils se mirent tous à rire, modérément.
En tout cas, se dit Fred, voici quelque chose qui mérite d'être signalé. Cette allusion mystérieuse au fait de se faire passer pour un stup. Les copains d'Arctor ont été également surpris. J'emporterai une copie de ça à mon rendez-vous demain. La bande audio suffira. J'en discuterai avec Hank parmi les trucs que j'aurais pu glaner d'ici là. Même si je n'ai rien d'autre à lui montrer, c'est un début. Ça prouve que cette écoute permanente d'Arctor n'est pas vaine. Ça prouve que j'avais raison. Cette phrase était un lapsus. Arctor a foiré. Mais ce que ça veut dire, je l'ignore. On finira par le savoir, en s'acharnant sur Arctor jusqu'à ce qu'il craque. Même si ça n'a rien d'agréable de devoir les écouter sans interruption, lui et ses copains. D'ailleurs, ses copains ne valent pas mieux que lui. Comment ai-je pu traîner aussi longtemps avec eux dans cette baraque? C'était pas une vie. Des kilomètres de trucs sans intérêt, comme disait le mec tout à l'heure. On touche vraiment le fond. C'est le brouillard complet. Le brouillard mental et le brouillard au dehors. Tout ça à cause d'eux, du genre d'individus qu'ils sont. Fred prit son paquet de cigarettes et alla s'enfermer dans les toilettes. Du paquet, il tira 10 cachets de mort et les descendit avec un gobelet d'eau. Je regrette de ne pas en avoir apporté davantage.
Bah, j'en descendrai encore quelques-uns en rentrant après le boulot.
Il consulta sa montre et essaya de calculer combien de temps cela faisait. Sa tête était brouillée. Merde, combien faut-il compter? Il se demanda où était passé son sens de la durée. C'est à force de regarder les holos, je ne suis plus capable de dire l'heure. C'est comme si j'avais pris de l'acide et qu'ensuite je sois passé dans une station de lavage. Toute une batterie de brosses tourbillonnantes qui me dégringole dessus. Une chaîne m'entraîne dans des tunnels de mousse noire. Quelle façon de gagner sa croûte! Il ouvrit la porte des toilettes. Il regagna son poste à regret. Il déclencha une fois de plus l'entraînement de la bande.
Autant que je sache, annonçait Arctor, Dieu est mort.
J'ignorais qu'il était malade, répliqua Luckman.
Maintenant que mon Oldsmobile est HS, pour je ne sais plus combien de temps, enchaîna Arctor, j'ai décidé de la revendre et d'acheter une Enway.
Qu'est-ce que c'est qu'une Enway? Demanda Barris.
Une Enway? C'est dans les 3 livres, pensa Fred.
Une Enway, c'est dans les 3 livres, dit Arctor.